France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Quand Donald Trump est lâché par son ministre de la Justice, après enquête, il n'y a pas eu de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Voilà ce que dit Bill Barr, qui contredit donc son président. Selon de nombreux observateurs à la Maison-Blanche, le ministre de la Justice vit ses derniers jours au gouvernement. Joe Biden, le président élu, lui, aux États-Unis, annonce ses premiers actes politiques à venir. L'aide arrive, a promis Joe Biden, âgé de 78 ans, alors que les États-Unis vivent leur pire crise économique depuis 1929. Joe Biden exhorte le Congrès à voter sans délai un plan d'aide financière robuste qui sera dédié à tous les corps de métier impactés par le Covid-19. En France, le calendrier de vaccination contre le SARS-CoV-2 se dessine. Le grand public pourra être vacciné entre avril et juin, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Pour les plus âgés, les résidents des EHPAD et pour le personnel soignant, la vaccination aura lieu en janvier, voire fin décembre, en fonction de la disponibilité des vaccins. Pendant ce temps, les hôpitaux se vident peu à peu. Le nombre de patients hospitalisés à cause du Covid-19 repasse sous la barre des 28 000. C'est une première depuis plus d'un mois. Le nombre de cas détectés ces dernières 24 heures, près de 8 000 personnes, et le taux de positivité sont également en baisse dans le pays. Il faut empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Voilà le souhait d'Emmanuel Macron pour cette fin d'année. Faute de réussir à se coordonner avec les pays voisins, la France pourrait donc mettre en place des mesures restrictives et dissuasives. Une visioconférence organisée aujourd'hui pour soutenir les Libanais. Les Libanais, oui, car le gouvernement au Liban, depuis la double explosion de Beyrouth, n'a pas changé, contrairement à ce que souhaitait la France. Et puis, notons ce matin l'alunissage d'une sonde chinoise. Sur la Lune donc, elle servira à collecter des échantillons de roches lunaires. Nous y revenons dans une demi-heure dans le journal de 6h30.
L'histoire de la French Connection comme vous ne l'avez jamais entendue.
Tout le monde y gagne, même les journalistes y gagnent. Je dis aujourd'hui avec une certaine forme de dérision, moi-même, mais je vis de la drogue, tout le monde y gagne.
Vous avez dit la French ? Entre les années 50 et 70, un gigantesque trafic d'héroïne entre France et États-Unis. French Connection, Marseille, Montréal, New York, une collection de podcasts originaux coproduite par France Culture et Radio-Canada, l'histoire de filières méconnues de la French en retrouvant des témoins et des acteurs clés des deux côtés de l'Atlantique sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était sans pitié, sans pitié.
Inédit sur France Culture, Le Grand Moulne, célèbre et unique roman d'Alain Fournier. Un programme de lecture intégrale réalisé et diffusé en direct dans le feuilleton. Fin du 19e siècle dans un village de Sologne. Un jour, arrive Augustin. Le mystère de celui que tous appellent bientôt le Grand Moulne va bouleverser l'adolescence de François, le narrateur. Le plonger dans une aventure qui déterminera toute sa vie. Lu par Pierre-François Garel, en direct de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture et à 6h03, c'est l'heure du Monde Vivant, chronique de Bruno David, qui se penche ce matin sur celle que l'on appelle la rétine de Steller.
(1720) Ballottés par les vagues du Pacifique Nord, les pêcheurs russes, harassés, sont penchés sur leurs filets. Lorsque l'un d'eux hurle en pointant son doigt vers la crête d'une vague, « Une sirène ! Une sirène !» En effet, une sirène vient de faire surface. Curieuse, elle relève la tête, sort son buste de l'eau pour mieux voir le navire, exhibant à la vue des pêcheurs ses deux mamelles, avant de replonger en dévoilant une queue à deux lobes. Les sirènes tant redoutées d'Ulysse ne sont pas des légendes. Elles existent bel et bien. Mais qu'en est-il vraiment ? L'animal se rapprochant le plus de la sirène est incontestablement la rétine de Steller. Hydrodamalis gigas. En vous livrant ce nom, je ne vous avance guère et je vous dois un éclairage. La rétine est un mammifère marin de 7 à 8 mètres et pesant 8 à 9 tonnes. Imaginez un hybride entre une vache et un phoque. Avec les lamantins, la rétine appartient au groupe des siréniens, un nom qui n'est pas sans évoquer la légende des sirènes. Mais laissons les marins à leur rêverie pour nous intéresser à une énigme plus étonnante encore. Dans la galerie du muséum, le squelette de la rétine montre des mains avec des os en plâtre reconstitués. Pensant que les mains avaient été perdues, le squelette a été complété. Logique. Mais pourquoi ne pas avoir vérifié sur une rétine actuelle ? Eh bien voilà, ce n'est plus possible, car après avoir été découverte en 1741, l'espèce a été exterminée en l'espace de 27 ans. Heureusement, des musées avaient pu récupérer quelques squelettes. Résultat des courses, aucun ne présente de mains. Tous les bras se terminent par un radius et un cubitus. Pour y voir clair, il faut alors revenir à la description laissée par le naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller, qui accompagnait le navigateur Vitus Bering lors de l'exploration du Pacifique Nord. Leur bateau fit naufrage en 1741 sur l'île qui porte désormais le nom de Bering. Parmi les loutres de mer et les otaries, ils découvrirent un étrange mammifère de grande taille. Steller entreprit de le décrire. Quand, l'été 1742, les secours arrivent, il faut quitter l'île sans pouvoir emporter le squelette. Dès son retour sur le continent, Steller termine son manuscrit et l'envoie à Saint-Pétersbourg. Mais il ne vit pas assez longtemps pour le voir publié, mourant à 37 ans, en plein hiver sibérien. Comme le précise Steller, la rétine a bien un radius et un cubitus, des os de la main, carpes et métacarpes, mais pas de phalanges. Il évoque la ressemblance avec le moignon d'un membre amputé, qui à son extrémité serait hérissé d'innombrables soies. Il n'y a nulle phalange, et ces soies se sont dégradées. Il est donc normal que les spécimens des musées n'aient pas de doigts. Mais que sont devenus carpes et métacarpes ? Nous pouvons supposer que ces éléments dont parle Steller étaient cartilagineux, et qu'ils n'ont pas été conservés sur les squelettes des musées, car tous proviennent de rétines échouées. La main invisible de la rétine plane sur les sirènes et autres espèces disparues.
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Et si, plutôt que d'être désespérément seul, on passait Noël avec Claude Chabrol ? Carlotta édite pour les fêtes un beau coffret Chabrol Suspense au féminin avec 5 films en version restaurée qu'on a tous envie de revoir 20 ans ou plus après leur sortie. Il s'agit de L'Enfer, La Cérémonie, Rien ne va plus, Merci pour le chocolat et La Fleur du Mal. Pour analyser la part féminine de l'œuvre de Claude Chabrol, mon invité ce matin est l'historien du cinéma Antoine Debecq.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Le pain est frais, hein. Je l'ai pris ce matin. Un petit coup de vin. Ça te plaît ? C'est vrai que c'est ton anniversaire ?
Oui. J'en ai appris sur toi.
Des choses bien, j'espère.
Il paraît que t'as tué ta fille.
Qui c'est qui t'a raconté ça ?
Je le sais.
Comment tu le sais ?
Je le sais.
Oh ben c'est pas vrai, elle s'est brûlée toute seule. De toute façon, on n'a rien pu prouver, hein. Tu vois des photos ?
C'est pas toi qui l'as fait ?
On n'a rien pu prouver, je te dis. Le juge a dit qu'on n'avait pas de preuves.
Sandrine Bonner et Isabelle Huppert en 1995, La Cérémonie de Claude Chabrol. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Alors, vous préparez une biographie de Claude Chabrol qui paraîtra que l'année prochaine aux éditions Stock en septembre 2021. Mais vous signez justement le petit livre qui accompagne ces 5 films qui sortent donc dans ce coffret pour les fêtes de Carlotta. Chabrol, suspense au féminin. 10 ans après la mort de Claude Chabrol, on a l'impression que le réalisateur est rattrapé par la question d'actualité. La question post-MeToo, sans rapport aux femmes, comment il représentait les femmes dans ces films?
Absolument, c'est une bonne question à poser à Claude Chabrol, enfin à poser à ses films. Je pense que Chabrol a évolué comme tout le monde, et notamment sur cette question de la représentation des femmes. Moi, ma thèse, c'est qu'il y a chez Chabrol une véritable féminisation de son cinéma.
Ouais, vous le dites parce que les gens qui l'entouraient, les gens qui travaillaient avec lui, ses équipes, et pas seulement ses comédiennes, hein, parce qu'on parle très souvent des comédiennes, de Stéphane Audran, d'Isabelle Huppert, mais vous dites que celles qui travaillaient avec lui étaient de plus en plus nombreuses à la fin de sa carrière.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant aussi bien... du côté de ce qu'on appelle les techniciens, donc les techniciennes. Chabrol s'est entouré de plus en plus de femmes. Il y a sa propre femme qui est script, qui sa script depuis longtemps. Il y a
Aurore,
sa fille aussi. Aurore, oui, sa belle-fille Cécile Mestre, qui est devenue son assistante et qui est vraiment celle qui s'occupe très largement des tournages. Sous la direction de Chabrol, et puis plus largement une série de postes techniques qui sont de plus en plus féminins sur le décor notamment, c'est quelque chose de très frappant. Et puis bien sûr les scénaristes, Chabrol est passé d'un scénariste masculin, je dirais même presque macho, qui était Paul Jégoff, à des scénaristes femmes, notamment Caroline Eliachef qui est la scénariste de 3 des films qui sont dans ce coffret. Donc oui, il y a une féminisation qui passe à la fois par les gens qui travaillent avec lui. C'est un phénomène qui est assez proche de celui de Romer au même moment, hein, Éric Romer. Alors peut-être qu'Éric Romer va encore plus loin parce que lui, il féminise quasiment tous les postes de travail autour de lui. Mais Chabrol éprouve ce besoin-là. Et puis plus profondément, peut-être, il y a cette idée de... Je pense que c'est non seulement les gens qui travaillent avec Chabrol qui se féminisent, mais je dirais presque son regard et évidemment les histoires, les intrigues qui l'intéressent.
Pourtant, ce n'était pas gagné hein, au début. Hein, vous vous en souvenez, Antoine Debecq, au début, il était plutôt attaqué pour misogynie. Hein, par exemple, pour les bonnes, les gens se posaient la question, est-ce qu'il représentait...
Les bonnes femmes, c'est un film qui a été extrêmement... Bon, déjà, évidemment, son titre, qui est une sorte de provocation, qui reprend comme ça un archétype de la domination des femmes par le regard des hommes. Et d'autre part, il y avait disséminé comme ça dans les débuts du cinéma de Chabrol, aussi bien dans Les Cousins que, oui, dans Les Bonnes Femmes, toute une série de provocations misogynes qui étaient dues à la fois, je pense, à Paul Jégoff, son collaborateur le plus proche à l'époque, et puis je dirais à une forme aussi d'incompréhension de son cinéma. Évidemment, Chabrol n'est pas misogyne, il l'a dit d'ailleurs très vite, mais ce qui l'intéressait, c'était de montrer justement l'aliénation des femmes. C'est-à-dire, Stéphane Audran le dit bien quand elle dit « il ne faut pas voir les femmes, il faut voir ce que la société a fait des femmes ». Et c'est ça le regard de Chabrol, et c'est ça qu'il y a dans « Les bonnes femmes », c'est là où la société place les femmes. Et Chabrol le filme très objectivement, très frontalement. Alors, évidemment, ce regard-là a été jugé comme très gênant par notamment toute une série de critiques femmes des années 60. Elles n'étaient pas encore très nombreuses, mais elles ont toutes réagi à ce film à la fois en trouvant que le film était bienvenu, c'est-à-dire que voilà, il fallait montrer ça, mais que Chabrol pouvait être suspect à leurs yeux d'une certaine complaisance par rapport à la place attribuée aux femmes. Et je pense que c'est en fonction de ça que Chabrol aussi a réagi et a changé son point de vue, a changé son cinéma.
Donc a évolué.
a évolué, ne serait-ce que son travail avec Stéphane Audran, évidemment, est aussi une manière de placer la femme, et donc sa femme, au centre de son cinéma. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment Chabrol, dans des films bon très célèbres, depuis la femme infidèle, Le Boucher, Juste avant la nuit ou La Rupture, hein, ce sont les films vraiment qui ont fait le premier cœur de la filmographie la plus brillante de Chabrol au début des années 70. Peu à peu, Stéphane Audran, je dirais, prend le pouvoir dans le film, sur le film, même par rapport aux hommes. Hein, c'est très clair, par exemple, dans Juste avant la nuit, c'est l'invention de cette figure qui va hanter Chabrol et qui est dans ce coffret qui vient de sortir, hein, c'est la figure de la femme criminelle, de l'empoisonneuse. Hein, dans Juste avant la nuit, à la fin du film, Hélène Masson, les femmes sont souvent des Hélènes chez Chabrol, Hélène Masson va empoisonner son mari, et c'est une manière de prendre le pouvoir véritablement et sur l'intrigue et sur les hommes. Le passage.
Vous voulez dire que les femmes s'émancipent par le crime dans les films de Claude Chabrol, Antoine de Beck ?
Alors oui, je pense qu'il y a une certaine forme d'émancipation par le crime. Elles sont à la fois évidemment les victimes de la société qui les amène à être criminelles. Hein. Ce sont des femmes dominées, ce sont des femmes souvent qui existent à travers ce qu'on pourrait appeler l'oubli de soi et qui, tout d'un coup, par pulsion, ont besoin de se réaffirmer et leur manière de se réaffirmer, c'est effectivement d'expulser en quelque sorte par le crime les secrets qu'il y a en elles, ces secrets qui les traumatisent et qui sont en général des blessures infligées par les hommes, hein, de toute façon. Et donc, oui, je pense que la femme criminelle chez Chabrol est aussi une figure de prise de pouvoir sur le film et sur des films de Chabrol qui sont bien souvent des films de genre criminel, de genre policier, évidemment.
Le Réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Avec aujourd'hui Antoine de Beck, en invité de ce réveil culturel consacré à la sortie de ce coffret Claude Chabrol, édité par Carlotta, le coffret Chabrol Suspense au féminin avec 5 films. Je rappelle les titres, L'Enfer, La Cérémonie, Rien ne va plus, Merci pour le chocolat et La Fleur du Mal. Là, on est, c'est plutôt la fin de la carrière de Claude Chabrol, Antoine de Beck.
Oui, c'est plutôt la fin, c'est-à-dire c'est les années 90 et début 2000. C'est aussi le moment, ce sont 5 films produits par Marine Karmitz. Donc, c'est, je dirais, le deuxième moment dans la carrière de Chabrol où le cinéaste a trouvé une sorte de stabilité, de tranquillité même, on peut dire presque de tranquillité financière. Hein, il est salarié par un producteur. Voilà, et Chabrol a aimé travailler à 2 reprises, donc la première fois avec André Genovès au début des années 70, et puis ensuite avec Marine Karmitz pour 12 films. La première fois c'est pour 13, la deuxième fois pour 12, ça représente quand même deux noyaux comme ça de l'œuvre de Chabrol, et je pense qu'il a eu besoin de cette sorte de tranquillité et de stabilité pour donner libre cours à des films extrêmement personnels, où à chaque fois, c'est lui qui choisit aussi bien les histoires qu'il veut raconter que les comédiennes ou comédiens avec lesquels il veut travailler, les scénaristes, son équipe. Donc voilà, ce sont des films qui sont pas des films de commande, je dirais. Ce sont des films véritablement pensés, voulus complètement par Chabrol qui se sent tranquille pour les écrire, pour les réaliser. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques de ce coffret. Hein.
Et l'intitulé, le suspense au féminin chez Chabrol, on a affaire à des films où le suspense se conjugue au féminin, vraiment?
Oui, moi je pense que c'est au-delà de l'effet, disons, d'aubaine de titre comme ça, je pense que c'est vraiment pas faux, c'est assez juste au sens où ce sont les personnages principaux de ces films sont, disons, portent le regard sur, et sont déterminés par la mise en scène de Chabrol qui, je pense, se féminise au sens où ce sont vraiment ces femmes qui font le film, qui le regardent, qui l'organisent. Et puis d'autre part, le suspense, alors voilà, cette montée d'adrénaline comme ça, ce mystère peu à peu percé et les modalités dont le mystère va se révéler, en fait, épouse ce qu'on pourrait appeler une sorte de psyché féminine. Je pense que c'est tout à fait juste, dont une des modalités est effectivement le crime, et le crime commis par une femme. Ou par deux femmes, d'ailleurs, dans La Fleur du Mal, le dernier de ces films, le dernier film du coffret. Donc, oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser ce regard féminisé de Chabrol? C'est pas un regard féminin, évidemment, mais c'est un regard, je dirais, c'est un regard d'un homme, mais sans machisme. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas un regard de prédateur, si on veut. C'est un regard véritablement dénué de virilité, d'affirmation virile de l'homme. Et puis, d'autre part, moi, je définirais, c'est Chabrol qui le dit dans son langage, de façon très imagée, c'est l'idée d'une femme qui aurait des couilles, hein, comme il dit, et en parlant d'ailleurs d'une sorte de fantasme qu'aurait sa femme, Aurore Chabrol, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu voudrais avoir que tu n'as pas pour mieux vivre dans le monde actuel? Et Aurore Chabrol dit une paire de couilles. Et je pense que il y a dans le regard de Chabrol et dans la manière de faire de réaliser ses films, ce fantasme-là, c'est-à-dire celui d'un homme dénué de ses attributs et précisément un homme sans machisme, sans sa virilité, soit celui d'une femme qui tout d'un coup retrouverait cette affirmation virile.
Vous restez avec nous, Antoine Debecq. On va bientôt retrouver notre partenaire Auriane Jeancourt du magazine Transfuge, le magazine Transfuge qui lui aussi recommande vivement ce coffret Chabrol pour les fêtes de Noël. Bonjour Auriane Jeancourt.
Bonjour Toufik.
Nous sommes également avec Antoine Debecq. Antoine Debecq qui a été d'ailleurs interviewé à l'occasion de la sortie de ce coffret Suspense au féminin de 5 films de Claude Chabrol par le magazine Transfuge. Si je vous posais la question autour des films de ce coffret, Auriane Jeancourt, des 5 films proposés dans ce coffret Suspense au féminin de Chabrol, lequel vous préférez, Auriane Jeancourt?
Évidemment, c'est difficile de choisir parce qu'on sait que Chabrol, à chaque film, à chaque actrice, même à chaque lieu de France qu'il explorait, on pourrait dire que d'une certaine manière, il réinventait son univers complètement. Mais moi, j'aime beaucoup La Fleur du Mal. Je trouve qu'il est un peu moins connu. Il fait partie de ce qu'on appelle le dernier Chabrol. Et je trouve que notamment à travers ce personnage interprété par Suzanne Flon, qui est un des personnages féminins les plus mystérieux, je trouve les plus intrigants, cette vieille dame qui a peut-être assassiné son père, enfin on est presque dans la tragédie grecque, et qui voilà assiste à un nouveau meurtre, enfin cette vieille dame qui est à la fois souriante et l'ange de la mort, je trouve que voilà, c'est un des films moi qui m'a beaucoup marqué, et je m'y suis d'autant plus intéressée que là notre dossier est consacré à Claude Chabrol et ses actrices, donc on traverse différents Chabrol, différents moments de Chabrol à travers Stéphane Audran, Isabelle Huppert, Emmanuel Béart. Et voilà, Suzanne Flon est aussi une actrice dont on parle moins, mais qui a eu un très beau rôle, je trouve.
Antoine Debecq, vous le spécialiste de Chabrol, vous qui nous préparez la grande biographie pour l'année prochaine aux éditions Stock, pour revenir sur la représentation des femmes dans le cinéma de Claude Chabrol, j'ai découvert en faisant des recherches d'ailleurs sur ce coffret, je suis tombé sur une interview de Claude Chabrol où il expliquait que le rôle que tient Sandrine Bonnaire dans la cérémonie est un rôle qu'il avait d'abord proposé à Isabelle Huppert, et Isabelle Huppert a préféré jouer l'autre rôle qui est le rôle secondaire tout aussi important, mais le rôle secondaire, et Chabrol a accepté, ce qui montre bien qu'il était effectivement très, très sensible aux arguments de ses comédiennes.
Oui, je pense que Chabrol était un homme à l'écoute de ses comédiennes, et notamment qui les rendait extrêmement pointues et d'une intelligence très subtile. Et précisément, là se niche l'intelligence d'Isabelle Huppert, c'est-à-dire que effectivement, on pourrait imaginer a priori que le rôle de la bonne lui va comme un gant, et elle a compris que c'était justement ce rôle-là qu'il fallait à la fois laisser à Bonnaire, qui serait peut-être plus surprenante dans ce rôle-là, et qu'elle pouvait prendre l'autre rôle, le rôle de la postière, hein, de Jeanne, qui est un rôle plus, presque comme une sorte d'aiguillon un peu provocateur, moins en maîtrise dans le jeu, qui est quand même la spécialité de Huppert, hein, mais qui lui allait lui permettre d'affronter quelque chose qui peut-être lui convient moins, entre guillemets, mais il lui fait peur, mais où elle se révèle très très forte, c'est affronter une forme de liberté, voire presque d'improvisation dans le jeu, quoi. C'est ça que Chabrol, là où il est très fort, c'est qu'il parvient à ce genre de choses. C'est-à-dire que dans sa manière d'écouter, de sauter sur les propositions qu'on peut lui faire, que peuvent lui faire les actrices, là, il est extrêmement à l'affût de ce genre de choses, et il est extrêmement intelligent. Là.
Merci Antoine Debecq. Vous êtes tout à fait d'accord, Auriane Jeancourt, avec ce que vient de dire Antoine?
Oui, mais c'est vrai que ce couple de Huppert Bonnaire dans la cérémonie est absolument diabolique et donc extraordinaire. Et c'est vrai que Huppert, justement, dans ce registre démoniaque, peut-être plus expansif que d'habitude, excelle, mais c'est vrai aussi que Bonnaire, quand je pense notamment à ces scènes répétitives où elle est face à la télévision et elle se gave du vide qui est dispensé par la télévision, ce sont des scènes de préparation à la violence, d'ennui brut qui sont très très fortes.
Mais pour terminer, Auriane Jeancourt, est-ce que vous voyez que ces femmes sont vues, scrutées par un regard d'homme?
Écoutez, c'est une question qui traverse notre dossier et tous les critiques, et Antoine Debecq d'ailleurs qui nous donne une interview, ça rime à la question. Oui et non, oui, parce que Chabrol a sa propre vision de la femme, comme tous les grands cinéastes ont une vision de la femme. Et il a une vision de la femme qui est visiblement assez mystérieuse, assez changeante aussi selon les actrices, que ce soit Audran, Huppert ou d'autres.
Mais selon les époques aussi.
Et selon les époques aussi, je veux dire, le Chabrol des bonnes femmes n'est bien sûr pas le même que le Chabrol de la cérémonie. Mais bon, et puis Chabrol travaille avec sa fille, donc on voit aussi qu'il est entouré de femmes qui l'influencent. Mais non, dans la mesure où Chabrol n'est ni un féministe ni un anti-féministe. Vous voyez, ce ne sont pas des questions qui sont fondamentales pour lui. Donc je crois que voilà, c'est à peu près là que se situe Chabrol.
Merci beaucoup Auriane Jeancourt, merci beaucoup Antoine Debecq.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
L'Enfer, La Cérémonie, Rien ne va plus, Merci pour le chocolat et La Fleur du Mal. Ces cinq films de Claude Chabrol sont dans un coffret très beau et parfait pour les fêtes. Chabrol, suspense au féminin, c'est Carlotta qui édite ce coffret. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. On se retrouve demain pour un nouveau Réveil Culturel.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Doctrine de maintien de l'ordre, violence policière, violence contre les forces de l'ordre, protection de ceux qui nous protègent et surveillance de ceux qui nous surveillent.
Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
En quelques jours, le débat sur le contrôle des forces de l'ordre s'est accéléré et des voix s'élèvent pour demander une réforme de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. À quelles conditions celle-ci est-elle encore possible?
Le temps du débat, ce mercredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Les épreuves du bac vont arriver trop vite, on ne sera pas prêt. Après l'annonce d'une réouverture totale des lycées autour du 20 janvier, les syndicats demandent le report des épreuves prévues à la mi-mars pour les futurs bacheliers. Leurs arguments et la réponse du ministère de l'Éducation dans un instant. Nous interrogerons ensuite un responsable de l'Institut IFOP à propos de la vaccination des Français. Vaccination globale contre le Covid-19 qui pourrait commencer en avril, selon Emmanuel Macron. Dans ce journal encore, le compte-rendu d'audience du procès de Nicolas Sarkozy pour corruption et la défense mise à mal hier. La mort de 5 personnes au moins en Allemagne, tuées par un conducteur fou. Et puis l'alunissage d'une sonde chinoise, c'était cette nuit pour rapporter des roches lunaires, une première depuis 44 ans. Elles doivent avoir lieu dès la mi-mars et comptent pour un tiers de la note du baccalauréat. Faut-il reporter les épreuves de spécialité du bac, compte tenu de la crise sanitaire et du fonctionnement hybride des lycées en ce moment? Les syndicats enseignants et lycéens demandent ce report. Une pétition en ligne a déjà réuni 15 000 signatures. Cette demande doit être faite aujourd'hui en bonne et due forme au ministère de l'Éducation nationale pour un comité de suivi de la réforme du bac. Les professeurs et les lycéens le disent, il est aujourd'hui impossible de préparer correctement les épreuves, Alexis Morel.
Depuis près d'un mois, Benjamin, élève de terminale, ne vient au lycée qu'une demi-journée sur deux. Le reste se fait à distance. Alors dans ce contexte, le bac dès mars, ça le stresse.
On a l'impression de prendre du retard sur les programmes parce qu'il y a une partie des cours qu'on doit travailler en autonomie avec des polycopiés qui nous sont envoyés par les professeurs. Et donc, on prend du retard sur le cours. Donc c'est très compliqué de s'imaginer prêt pour ces épreuves.
Et c'est bien pour cela qu'il faut reporter ces épreuves de spécialité de mars à juin, selon certains syndicats enseignants. Et pour une fois, les proviseurs sont sur la même ligne. Bruno Bobkiewicz du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement, craint une rupture d'égalité entre élèves si un report n'est pas décidé, car seule une grosse moitié des lycées est passée à un fonctionnement hybride.
Eh ben oui, parce que forcément qu'à partir du moment où on a un établissement qui maintient les cours à temps complet, un autre qui bascule à mi-temps, l'élève qui a 6 heures de présence dans l'établissement et l'élève qui a 3 heures de présence et 3 heures à distance d'une quelconque façon, c'est quand même pas la même façon d'avancer le programme.
Pour l'instant, Jean-Michel Blanquer n'évoque pas de report, mais un aménagement des épreuves avec par exemple 2 sujets proposés au lieu d'un dans chaque discipline.
Moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures pour le troisième jour de suite. Une baisse donc. Le confinement fait lentement son effet en France. Nous retrouvons les seuils du mois de septembre. Sachez aussi qu'hier, 365 décès ont été recensés à l'hôpital à cause du Covid-19. Et à l'avenir, nous pourrons nous faire vacciner entre avril et juin. C'est en tout cas ce qu'envisage Emmanuel Macron. Le président évoque une campagne de vaccination pour le grand public à ce moment-là, après une première vague de vaccination qui sera réservée au public dit les plus fragiles et au personnel soignant. Ce sera a priori en janvier prochain. Une vaccination donc pour le plus grand nombre, selon le président. Encore faut-il que les Français soient d'accord. C'est évidemment tout l'enjeu, dit Frédéric Dabi. Il est le directeur général adjoint de l'Institut IFOP.
On est dans une société de défiance et toutes les sphères ont été touchées. Le politique, depuis le début de cette crise du coronavirus, on a vu des Français de plus en plus défiants, se focalisant sur un sentiment de tromperie, de mensonges, d'absence de transparence, notamment sur la question des masques, lors de la première vague. Là, on a plutôt un sentiment d'absence de transparence et de décision incohérente avec une absence d'anticipation. Là, sur le vaccin, il y a des prérequis, il y a des choses qui pourraient faciliter la confiance si l'organisation des vaccinations est bien faite, si, et c'est une attente très forte des Français, si des acteurs de santé de proximité, médecins, pharmaciens sont bien associés. Mais il y a une partie des Français qui sont particulièrement rétifs, une partie minoritaire de l'opinion publique, mais plus forte auprès des jeunes, auprès des catégories populaires, auprès des personnes non diplômées. Il y a cette réticence à l'égard du vaccin. Tout ça s'inscrit dans un contexte de défiance à l'égard de la sphère politique, mais également, il faut le dire, à l'égard de la sphère scientifique que les Français ont pu voir pendant toute la période de cette crise s'écharper parfois sur les plateaux de télévision, avoir eu des difficultés à dire ce qu'il en était de cette maladie. Tout ça a entretenu une certaine défiance, voire un soupçon.
C'était Frédéric Dabi de l'IFOP, interrogé pour France Culture par Rosalie Lafarge. Le tribunal correctionnel de Paris a entamé hier le fond de l'affaire dite des écoutes, procès qui juge Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert pour corruption et trafic d'influence notamment. La journée d'hier, Anne Fauquemberg a mis la défense à fleur de peau.
Il y a d'abord eu les morceaux choisis des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur la ligne Bismuth, ouverte secrètement en janvier 2014 et découverte à l'occasion de l'enquête dite libyenne. Des conversations qui évoquent l'ami ou encore Gilbert, ce haut magistrat de la Cour de cassation qui aurait informé les deux hommes au sujet d'un pourvoi de l'ancien président dans l'affaire Bettencourt en échange d'un soutien pour un poste à Monaco. « Je l'aiderai », dit Nicolas Sarkozy dans un des procès-verbaux. Un exposé au cours duquel l'avocat de Thierry Herzog, Hervé Temim, corrige la moindre petite erreur de date ou de mot mal choisi. Puis c'est au tour du premier témoin, cité par le parquet. Le magistrat Patrick Sassoust a été placé en garde à vue dans cette affaire, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Sa position d'avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation lui permettait d'avoir des informations sur l'affaire Bettencourt plus facilement que Gilbert Azibert, qui à l'époque dépendait d'une chambre civile. À la barre, il reconnaît que son ami est devenu de plus en plus insistant à l'approche du délibéré le 11 mars 2014. Il y a eu une succession de déjeuners, contrairement à l'année précédente, observe-t-il. Derrière lui, le haut magistrat Gilbert Azibert, désormais à la retraite, enlève puis remet ses petites lunettes rondes. Aujourd'hui, il devra s'expliquer devant ses pairs.
Anne Fauquemberg, qui suivra donc pour nous aujourd'hui cette première prise de parole de Gilbert Azibert? Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vont co-présider aujourd'hui une nouvelle visioconférence internationale pour soutenir la population libanaise. Sont conviés, entre autres, des chefs d'État, des organisations internationales, des bailleurs de fonds et des ONG, 4 mois après la double explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth. Une réunion qui sera pilotée depuis l'Élysée. Le bilan provisoire est de 5 morts, 14 blessés, dont certains grièvement, tous renversés hier par un homme au volant d'un 4x4 en Allemagne, à Trèves, dans la vallée de la Moselle. Stupeur et effroi dans ce pays qui a connu ces 4 dernières années des attaques de terroristes islamistes ou associés aux idées d'extrême droite. Hier soir, les autorités allemandes ont levé finalement tout doute lors d'une conférence de presse, Ludovic Piétenu.
L'auteur souffre de troubles psychiatriques. Ce sont les mots du procureur qui a demandé une expertise un peu plus poussée que celle réalisée juste après son interpellation. L'homme était ivre après les faits. Le procureur a donc mis plusieurs choses de côté. Ce n'est pas un geste terroriste, une motivation politique ou religieuse. Il parle d'un geste délibéré qui l'a conduit à semer la mort pendant 4 minutes, ne s'arrêtant au bout de 800 mètres uniquement parce que stoppé par la police. Avant cela, il a roulé à grande vitesse dans cette zone piétonne et fait des zigzags à dessein pour tuer un peu plus. Le maire de la commune paraît comme ahuri par une telle violence. Je ne peux pas comprendre d'où vient l'idée de se dire « je vais prendre ma voiture, traverser une zone piétonne et tuer des gens ». La ville entière a prévu une cérémonie et un recueillement dans la matinée vers 10h. Trêve sous le choc et avec elle toute l'Allemagne.
Ludovic Piétenu. C'est une nouvelle étape dans l'aventure spatiale de la Chine qui veut envoyer des astronautes astronautes sur la Lune d'ici 10 ans. Cette nuit, la sonde Chang'e 5 s'est posée sur la face visible de la Lune dans une région connue sous le nom d'océan des tempêtes. Contrôlée depuis la Terre, cette mission chinoise de collecte de roches lunaires va durer 2 jours. Et ces dernières heures déjà, la sonde a envoyé des images. C'est un récit signé Dominique André.
Des applaudissements et de la musique classique pour célébrer l'événement, la CCTV, la télévision nationale, a diffusé avec fierté une courte séquence des images envoyées depuis la Lune par la mission Chang'e 5. L'un des commandants de l'Agence spatiale nationale chinoise a donné les premiers détails de cette nouvelle étape. La sonde s'est posée sur la Lune sur un sol stable, dégagé. Il n'y a pas de grands cailloux, explique Xie Wei. Ça nous aidera à collecter les échantillons et à les mettre ensuite dans le récipient. La collecte qui a commencé va durer environ 48 heures. Les échantillons sont prélevés jusqu'à 2 mètres de profondeur dans une zone géologique plus jeune que lors des missions américaines et soviétiques, dont la dernière remonte à 1976. Les roches recueillies par un bras robot sont placées dans un récipient. Un véhicule de remontée les transportera ensuite pour les transférer dans une capsule de retour placée en orbite qui doit les ramener sur Terre. Ces technologies sont testées aussi dans l'objectif d'envoyer des astronautes chinois sur la Lune. La NASA a immédiatement tweeté ses félicitations après l'alunissage et exprimé ses espoirs que les échantillons feront progresser la communauté scientifique internationale.
C'était Dominique André depuis Pékin pour France Culture. Le temps sur la France métropolitaine ce mercredi, il sera assez nuageux, parfois pluvieux et toujours froid de la Normandie jusqu'à l'Auvergne. Ce matin, comptez 1 degré à Strasbourg, 3 à Bordeaux et Grenoble, 7 degrés à Paris et 10 degrés à Nice. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées avec Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Le projet de loi de réforme de la justice des mineurs était examiné hier à l'Assemblée nationale devant la commission des lois et il suscite un vif débat, Jacques.
Oui, son examen en séance publique est prévu à partir du 10 décembre. Il vise notamment à se prononcer plus rapidement sur la culpabilité et aboutir au jugement dans un délai d'un an contre 18 mois en moyenne aujourd'hui. Le but est aussi de permettre une indemnisation plus rapide des victimes. Sur le site de La Croix, Pierre Bienvaux rappelle que concernant un mineur, la phase d'instruction permet au magistrat de prononcer des mesures éducatives en essayant de mieux cerner la personnalité ainsi que l'environnement social et familial du mineur. Sophie Legrand, juge pour enfants, souligne qu'il est essentiel avant de prononcer une peine de se laisser du temps pour comprendre le passage à l'acte et voir comment le jeune se positionne avec un peu de recul par rapport à ce qu'il a fait. Le projet prévoit également, si les faits sont établis aux yeux du magistrat, qu'il puisse prononcer immédiatement sa culpabilité avant de le convoquer dans un délai de 6 à 9 mois pour être jugé. Aujourd'hui, après la mise en examen, on laisse repartir le jeune en lui disant qu'il recevra ultérieurement la date de l'audience du jugement. À l'avenir, il sortira du bureau avec une date déjà fixée, explique Laurent Gerber, président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Enfin, comme le précise Jean-Baptiste Jacquin dans Le Monde, la principale exception à cette procédure en deux temps concerne les mineurs déjà condamnés, connus du juge et de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ce cas, le parquet pourra demander une audience unique sur la culpabilité et la sanction. Et c'est ce qui cristallise le plus l'opposition des juges, qui voient l'instauration d'une comparution immédiate pour mineurs, une procédure rarement synonyme de l'individualisation de la peine, pourtant absolument centrale dans cette justice confrontée à des jeunes, à l'histoire souvent cabossée, à la maturité très inégale. Plus de 200 personnalités, parmi lesquelles des professionnels de l'enfance, membres d'organisations syndicales de magistrats, travailleurs sociaux et avocats, ont signé une tribune publiée sur France Info. Notre confrère rappelant les parlementaires à s'opposer au vote du projet de loi. Selon eux, le gouvernement préfère dessiner un projet centré sur l'accélération de la réponse pénale au détriment du temps éducatif, et le projet de code pénal des mineurs ne fait que conforter un progressif abandon de la spécificité de la réponse devant être apportée aux enfants par rapport aux adultes, vers toujours plus de répression et toujours moins d'éducation. En outre, il ne tient pas compte de l'indigence des moyens, alors même que la crise du Covid est venue exacerber des difficultés déjà criantes. La date fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau code de la justice pénale des mineurs, le 31 mars 2021, fait aussi problème. Les tribunaux pour enfants n'auront pas pu apurer leur stock et le nouveau texte imposera des délais butoirs pour les nouveaux dossiers, pardon, qui seront donc paradoxalement traités en priorité au détriment des dossiers régis par l'ancien système. Si l'on en juge par le branle-bas de combat de la vaste opération de déstockage des dossiers suite au retard pris du fait de la crise sanitaire, on ne peut qu'en convenir. Le ministre de la Justice a en effet proposé de retirer du circuit pénal des procédures pour lesquelles les procureurs avaient déjà engagé des poursuites. L'opération concerne les procédures les plus anciennes, lorsque les mineurs sont devenus majeurs et les moins graves, les affaires criminelles sont exclues. Mais même la présence d'une victime dans un dossier n'empêche pas de le retirer. Un vol de téléphone portable avec violence pourrait faire partie de cette dépénalisation de procédure. La dernière livraison de la revue délibérée, animée par le syndicat de la magistrature, porte sur les effets de la crise sanitaire, justement sur le fonctionnement et le principe même de la justice. Législation d'exception, recul de nombreuses garanties procédurales, administration verticale des juridictions, activité réduite des tribunaux, laissant apparaître des priorisations hautement contestables, réflexes répressifs, le constat d'une justice déconfite s'illustre notamment dans le journal de bord d'une juge des enfants confinés qui parle de débâcle judiciaire. Avec la réduction des audiences, difficile d'assurer la continuité de la justice, notamment dans le cas des placements provisoires lorsque l'intérêt de l'enfant est en jeu. Il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier.
Aujourd'hui, trois figures de la contestation à Hong Kong seront fixées sur leur peine.
Oui, le plus connu, Joshua Wong, 24 ans, mais aussi Ivan Lam et Agnès Chow. Tous trois ont été jugés la semaine dernière pour une manifestation devant le quartier général de la police de Hong Kong en juin 2019, alors qu'avaient commencé quelques semaines plus tôt les manifestations quotidiennes contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Ce projet de loi a été retiré, mais une autre loi est entrée en vigueur entre-temps, la loi dite de sécurité nationale imposée par Pékin, capable de court-circuiter la constitution locale et les institutions autonomes de Hong Kong. Alors 5 mois après être entré en vigueur, ce texte a-t-il déjà tué la contestation ? Il est 13h46 à Hong Kong où vous êtes, Eric Sautedet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique, donc basé à Hong Kong. C'est aujourd'hui, Eric Sautedet, que doivent être rendus les jugements dans le procès de trois militants de la contestation à Hong Kong qui ont plaidé coupables d'ailleurs la semaine dernière et qui risquent 3 ans de prison. Est-ce que tous ont été jugés au nom de la loi de sécurité nationale promulguée cet été par Pékin ?
Alors non, en fait, ils ne sont pas du tout jugés sous ce coup de la loi de la sécurité nationale. Ils sont jugés sous le coup d'une loi plus ancienne, qui est la Public Order Ordinance, donc qui date de l'époque coloniale et qui a été ensuite reconduite après 97, après la rétrocession Hong Kong. Donc les peines sont moins importantes, et puis surtout, ça ne concerne pas les crimes que couvre la loi de sécurité nationale sur la sécession, la subversion, les actes de terrorisme et la collusion avec les pays étrangers. Là, ils sont simplement, entre guillemets, accusés d'avoir participé et d'avoir été à l'instigation d'une manifestation, donc comme vous l'avez dit, le 21 juin 2019, contre la police et contre les actions de la police.
Alors, est-ce que 5 mois, c'était le 1er juillet que cette loi est entrée en vigueur, des arrestations ont-elles été conduites au nom de cette loi ?
Alors oui, effectivement, il y a plus d'une trentaine d'arrestations au nom de cette loi, donc c'est quand même quelque chose d'assez patent. C'est une loi qui est utilisée, donc l'idée que ça ne concernera que quelques cas exceptionnels, déjà c'est un petit peu battu en brèche, parce qu'on a quand même plus d'une trentaine de cas. Par contre, des inculpations prononcées, il y en a pour l'instant que 3. Sous le coup de la sécession et d'actes de terrorisme, donc avec une arrestation au 1er juillet, et les deux autres sous le coup d'actes de sécession, et donc là des arrestations qui se sont produites en novembre. Il faut savoir que la loi n'est pas rétroactive, donc de toute façon ça ne concerne que des actes qui ne peuvent avoir été commis qu'après le 1er juillet 2020. Donc c'est pour ça que Agnès Cho, Ivan Lam et Joshua Wong ne pouvaient pas de toute façon tomber sous cette loi.
Est-ce que les 12 jeunes hongkongais arrêtés fin août, ils étaient en pleine mer, ils tentaient de rejoindre Taïwan, est-ce qu'ils ont été arrêtés en vertu de cette loi?
Alors non, c'est pareil, là pour l'instant on n'a pas encore... Alors voilà, pour l'instant sur le séparatisme, sur la sécession, le séparatisme, pardon, ça concerne vraiment que ces 3 et c'est à Hong Kong, ça se passe à Hong Kong. Donc les jugements avec un tribunal d'exception, avec des juges désignés par le chef de l'exécutif, 6 juges que nous ne connaissons pas d'ailleurs, qui ont été désignés dès début juillet, mais que pour l'instant les noms n'ont pas été révélés au public. Les 12 qui ont été arrêtés fin août, en fait, ont été arrêtés pour avoir traversé la frontière illégalement, puisqu'ils cherchaient à se rendre. Certains avaient peur de cette loi et pensaient qu'ils pourraient effectivement être jugé sous le coup de cette loi, et donc avait pris des dispositions pour s'échapper de Hong Kong et notamment se réfugier à Taïwan.
Alors, vous venez de le dire, Eric Sautedé, la loi stipule que ce sont des tribunaux d'exception qui jugeront les personnes arrêtées selon les chefs d'accusation que vous avez mentionnés tout à l'heure, trahison, sécession, acte de terrorisme, collusion avec les pays étrangers. Est-ce qu'on a déjà pu constater à Hong Kong le début de la fin de l'indépendance de la justice?
Alors, il y a une très forte attaque contre la justice, notamment des... En fait, ce qui reprochait à la justice, c'est d'avoir été un petit peu trop du côté des droits des individus, puisque en fait, quand le procureur général, le ministère public ici n'avait pas vraiment la possibilité de qualifier certaines des accusations, la justice a vraiment fait son devoir et a donc soit renvoyé les cas, soit les a déboutés, soit de toute façon n'a proposé que des peines assez légères. Donc un des gros reproches qui est fait, mais par le politique, pas du tout par l'administration judiciaire, c'est que la justice est d'une certaine façon un petit peu trop du côté de la Bill of Rights, des droits des individus, et pas assez du côté de la punition de ces jeunes qui sont considérés comme, enfin des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont considérés comme ayant apporté le désordre et ayant d'une certaine façon mis en danger l'avenir de Hong Kong. Donc c'est ce qui est reproché à la justice par les politiciens pro-establishment. Bien évidemment, le gouvernement ne peut pas le dire. C'est quelque chose qui ne peut pas être exprimé très ouvertement soit par la chef de l'exécutif ou par la secrétaire à la justice, mais c'est quelque chose qui traîne et c'est encouragé. Dernièrement, par exemple, des attaques qui venaient de la presse pro-Pékin contre le système judiciaire à Hong Kong. C'est le barreau de Hong Kong qui s'est étonné que la secrétaire à la justice ne défende pas plus les juges face à des attaques venant des attaques cherchant à ternir la réputation de la justice, venant soit de la presse pro-Pékin ou pro-establishment et de certains hommes politiques pro-Pékin, pro-establishment.
Alors Carrie Lam, la chef de l'exécutif, elle a fait la semaine dernière son discours de politique générale devant ce qu'on appelle le Conseil législatif, qui est le Parlement local. Est-ce qu'elle en a profité pour faire un premier bilan, en s'en félicitant sans doute de cette loi sur la sécurité nationale? Parce que l'année dernière, elle avait quand même tenté de jouer plutôt l'apaisement en retirant le projet de loi d'extradition pour donner des gages aux manifestants en disant « voilà, je vous ai entendu ».
Oui, alors il faut quand même savoir que la loi de la sécurité nationale, sa raison d'être et la façon dont elle a été passée, c'est parce qu'il y a eu les événements de l'année dernière autour de la loi d'extradition des personnes. Moi, je suis désolé.
Ouais, je vous en prie.
À partir de l'anglais quelquefois. Et donc effectivement, c'est quand même cette loi qui a provoqué le passage et les troubles qu'il y avait eu autour de cette loi qui a provoqué le passage de la loi sur la sécurité nationale. Donc de toute façon, c'était très, très difficile d'être dans le même registre. Elle a fait le plus long discours de politique générale de toute sa carrière. Ça a duré 2h15. C'est très éprouvant. Trois fois, en gros, le temps passé l'année dernière. Et ça a été un long plaidoyer pour avoir être parvenu, grâce à cette loi, d'ailleurs, qui a été imposée par Pékin, qui n'a pas du tout été décidée à Hong Kong, comme normalement le prévoit la mini-constitution de Hong Kong, donc la Basic Law. Et c'est donc, elle s'est félicitée du fait que l'ordre avait été restauré, qu'à nouveau Hong Kong pouvait reprendre son souffle et aller de l'avant. Mais ça, il n'y a absolument aucune contrition, absolument aucun sentiment de culpabilité. La seule culpabilité qu'elle a retenue d'ailleurs ce week-end dans un entretien assez long donné au South China Morning Post, c'est d'avoir peut-être mal réussi à expliquer la loi.
Elle a fait, donc vous dites que c'était un discours très long, mais c'était aussi un discours, pour rester poli, complètement atone, parce qu'elle l'a fait dans une configuration inédite, personne n'était là pour la chahuter, il n'y avait aucun député de l'opposition pour écouter ce discours dans l'enceinte du Parlement local. Où sont-ils passés? Il faut raconter, Eric Sautedé, ce qui s'est passé le 11 novembre dernier.
Ah oui, alors effectivement, point extrêmement important, c'est qu'en fait, le Conseil législatif, l'Assemblée locale, a été complètement vidée de son opposition suite à une décision. Alors ça dure depuis juillet, parce que en juillet, il devait y avoir normalement les candidatures annoncées pour des élections qui devaient se tenir en septembre. Et puis les élections ont été annulées et la mandature a été prolongée d'un an. Sauf qu'entre-temps, on a aussi appris que certains députés de l'opposition avaient été disqualifiés, donc avaient été interdit de se présenter et par effet alors qu'on pensait qu'en fait ils allaient rester, certains avaient fait le choix de rester quand même l'année supplémentaire, même si c'était une année concédée par Pékin, et qu'ils jugeaient tous d'une certaine façon, ces députés d'opposition, que ça n'aurait pas dû être le cas, que ça aurait dû être décidé localement, que ça aurait dû être à la justice locale de décider de tout ça, et certainement pas à Pékin de décider de tout cela. Donc malgré cela, ils avaient décidé de rester, et paf, tombe le 1er novembre cette décision qui vient de Pékin, demandée par la chef de l'exécutif, à mettre cette idée de disqualification des députés par rapport aux élections, de les mettre en accord aussi avec le fait que ces députés étaient des députés sortants et que donc ils allaient siéger pour un an supplémentaire à l'Assemblée. Donc 4 députés sont exclus et les 15 autres députés pan-démocrates, il en reste quand même 2 dont on parle jamais mais qui ont un tout petit rôle, mais 15 autres députés démocrates vont donc décider eux-mêmes de démissionner et de ne pas prêter caution à ce qu'ils appellent un conseil législatif fantoche.
Alors on n'a vraiment plus que 20 secondes, donc c'est trop peu pour dire en quoi le Parlement entièrement entre les mains d'élus aligné sur la position chinoise, donc aujourd'hui, quelles sont les conséquences à attendre dans les mois à venir? Il faut dire que de toute façon, le Parlement est toujours en majorité pro-Pékin. Là, il l'est exclusivement.
Voilà, c'est ça. Alors, il est toujours. Donc, ils ont peu d'initiatives d'une certaine façon, mais ils ont un rôle de supervision extrêmement important. Il y a certaines lois aussi maintenant qui vont passer comme une lettre à la poste sans qu'il y ait des discussions. Quelquefois, ça s'enlisait dans des discussions, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire pour aussi que les choses soient examinées de fond en comble. Et là, ça ne sera plus le cas. Donc, on risque d'avoir beaucoup de lois, des lois mal ficelées, des lois qui remettent en cause certaines des libertés. Et puis, bien évidemment, mauvaise législation dit aussi la nécessité d'avoir à relégiférer très rapidement sur le même type de sujet. Et ça va être donc, plutôt que d'être une vraie libération, ça va être plutôt un nouvel obstacle dans le processus de législation.
Merci beaucoup Eric Sautedé d'avoir été en direct avec nous depuis Hong Kong ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'histoire de la French Connection comme vous ne l'avez jamais entendue.
Tout le monde y gagne, même les journalistes y gagnent. Je dis aujourd'hui avec une certaine forme de dérision, moi-même, mais je vis de la drogue. Tout le monde y gagne.
Vous avez dit la French ? Entre les années 50 et 70, un gigantesque trafic d'héroïne entre France et États-Unis. French Connection, Marseille, Montréal, New York, une collection de podcasts originaux coproduite par France Culture et Radio-Canada, l'histoire de filières méconnues de la French en retrouvant des témoins et des acteurs clés des deux côtés de l'Atlantique sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était sans pitié, sans pitié.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis, Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h57 Guillaume, c'est votre humeur du jour. La Suisse, ce nouveau paradis des fraudeurs du ski.
Eh ben oui, la Suisse depuis des décennies accueille les fraudeurs, fraudeurs du fisc, fraudeurs du ski maintenant. J'en vois qui ricanent déjà à gauche en se disant qu'enfin Davos va avoir mauvaise presse, y aller c'est renoncer à la solidarité nationale. Alors on comprend bien ce qu'il y a effectivement de désespérant pour les commerçants des stations de sport d'hiver françaises qui vont demeurer fermées à Noël alors que les stations suisses ou espagnoles seront ouvertes. Il y a bien sûr rupture d'égalité, même si le gouvernement a lâché quand même un étonnant, les stations de ski pourront ouvrir mais pas les remonter, oubliant que les stations de ski en France, comme ailleurs d'ailleurs, se distinguent de Disneyland en ceci qu'elles abritent des habitants, j'en connais qui font du reblochon par exemple, et leurs vaches ne sont pas soumises à des autorisations d'ouverture ou de fermeture administrative. Donc, les stations de ski seront ouvertes en France, mais le ski fermé, tandis que la Suisse se targue d'être un paradis blanc après le refuge fiscal, le refuge tout court. Alors, on aurait pu demander aux Français d'être solidaires, de ne pas mettre une spatule ailleurs. Je sais pas, moi, par exemple, Julie, une mobilisation des hauts revenus, une manif Neuilly-Passy sur le thème, puisque nous n'avons pas le droit d'aller à Courchevel, nous n'irons pas à Gstaad, ou bien encore ce beau slogan, oui à l'île Maurice, non à Saint-Maurice, parce qu'en matière maritime, il n'y a pas de concurrence déloyale. D'ailleurs, vous, Julie, rien ne vous empêche d'aller vous baigner le 31 décembre à Vimereux. Ça fera rigoler les mouettes.
Non, je suis en direct pourquoi... le 1er janvier, moi.
Bon, alors, donc, vous ne pourrez pas. Bah, vous irez après. En tout cas, pourquoi priver les hauts revenus d'une baignade dans les îles Vierges de taxes? Mais voilà, la France est un pays sadique où, comme vous savez, on aime surveiller et punir. Alors, plutôt que d'appeler les Français à la solidarité, Emmanuel Macron a évoqué, je cite, « des mesures dissuasives pour ceux qui iront skier ailleurs ». Et là, eh bien, on avoue tous notre curiosité. Par exemple, comment va-t-on faire pour distinguer un skieur qui est allé frauder en Suisse d'un honnête promeneur qui est allé visiter la demeure de Calvin? Est-ce qu'on va épier la marque des lunettes? Des chiens policiers vont-ils être dressés pour traquer les après-ski? Quelles mesures dissuasives nous attendons une fois de plus? Il se pourrait bien que la montagne accouche d'une souris.